à tous. Vous êtes bien sur la Voix de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé. Devant ce micro, Nalit Salami. L'échographie fait partie des examens prénataux de routine proposés aux femmes enceintes dans la plupart des pays dotés de services de santé assez développés. Elle est incluse dans les soins de santé prénataux pour améliorer la santé de la mère et du bébé. Quels avantages cet examen présente-t-il aussi bien pour la mère que pour l'enfant? Quand faut-il le faire? À quel danger s'expose une femme qui s'abstient de faire une échographie? Quel risque pour le bébé?
Celles qui s'abstiennent de faire des échographies prennent des risques divers. Parce que, par exemple, l'échographie qui se fait entre 6 et 10 semaines confirme l'allocation de la grossesse, c'est-à-dire est-ce qu'elle est dans l'utérus ou est-ce qu'elle est ailleurs. Et cela se fait entre 6 et 10 semaines parce que à ce moment où le fait petit, il peut causer beaucoup de dégâts si, par exemple, il se trouve dans les trompes.
Quelles sont les questions auxquelles répondra Mme Sabrina Ngwe, échographe à l'hôpital Innova en Virginie, ici aux États-Unis. Au cours de ce magazine Votre Santé, Votre Avenir, notre invité apportera aussi des réponses aux questions que vous aviez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique. Après cette interview, vous suivrez Carnet de Santé présenté par Linon Moudou dans la deuxième partie de l'émission. Comme annoncé, vous allez suivre maintenant l'entretien que nous a accordé Mme Sabrina Ngwe sur l'échographie.
C'est votre avenir, l'invité de la semaine.
Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'accepter d'être notre invité pour Votre Santé et Votre Avenir pour parler de l'échographie. Nous allons commencer cette émission par une question qui vient de Félicien Koudoufouela. Il veut savoir quels sont les avantages d'une échographie.
Alors, l'échographie est une méthode d'évaluation non évasive du fœtus et de la maman. Elle aide à avoir l'état de santé du fœtus et de la maman sans toutefois être invasive. Donc, elle présente très peu de risques.
Et Alviki et Jefté, non, c'est Alviki et Alphonse Mwaki veulent savoir à combien de mois on peut commencer une échographie ou faire la première échographie.
La première échographie peut se faire aussi tôt que 6 semaines de grossesse. C'est à ce moment-là qu'on peut voir le fœtus qui se forme dans l'utérus.
Bon, c'est une question qui est venue d'un auditeur qui veut savoir à combien de mois peut-on déclarer l'œuf clair. Certainement, on peut voir l'œuf clair.
Ok, donc généralement, c'est après 12 semaines de grossesse, dont 3 mois. Qu'on peut être à peu près sûr que la grossesse va tenir son cours. Donc, disons, c'est après 12 semaines, 3 mois.
Toujours Jefté Kadeya, il veut savoir combien d'examens d'échographie sont recommandés à une femme enceinte, donc pendant le moment où elle est enceinte et l'accouchement.
Alors, cela dépend des cas, mais je vais donner de façon générale. La première échographie est faite entre 6 et 10 semaines et cela c'est pour établir la viabilité du fœtus et aussi pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre qui se passe dans le pelvis. Et après, la deuxième est conseillée entre 12 et 14 semaines pour établir que les fonctions primaires sont en train de prendre cours comme cela se doit. Et l'examen le plus connu, le plus attendu des mamans, c'est entre 18 et 24 semaines. C'est là où l'anatomie détaillée du bébé est faite pour savoir s'il y a des déchets qui peuvent être déjà perçus à cet âge du fœtus.
Alors, on rencontre souvent certaines femmes qui minimisent l'échographie. À quel danger ce genre de femme s'expose-t-elle, celle qui s'abstient de faire une échographie, et quels sont les risques pour le bébé?
Alors, celles qui s'abstiennent de faire des échographies prennent des risques divers, parce que, par exemple, l'échographie qui se fait entre 6 et 10 semaines confirme la location de la grossesse, c'est-à-dire est-ce qu'elle est dans l'utérus ou est-ce qu'elle est ailleurs. Cela se fait entre 6 et 10 semaines parce que à ce moment où l'œuf est petit, il peut causer beaucoup de dégâts si par exemple il se trouve dans les trompes. Entre 12 et 14 semaines, il est établi que les fonctions vitales du fœtus sont en cours. Donc, une personne qui décide, qui a l'opportunité, mais qui décide de ne pas avoir une échographie, peut manquer l'information de savoir que tout ne se passe pas comme il se faut dans l'utérus. Et entre 18 et 24 semaines, il faut voir s'il y a des déchets, peut-être la maman peut prendre un traitement qui peut empêcher que certaines choses qui ne sont pas en train de bien se former s'arrangent. Donc, manquer de se faire suivre par échographie comporte des risques.
Merci. Il y a eu des cas où l'échographie a montré un sexe masculin, mais le bébé est né de sexe féminin. C'est ce qui a poussé Médard du Rocher-Boupé à se demander pourquoi l'échographie ne donne pas une réponse exacte en ce qui concerne le sexe de l'enfant.
Bon, en général, il répond à la question du genre de bébé de façon certaine. Donc, l'incertitude ici provient de l'inaptitude du technicien à visualiser les parties génitales du fœtus. Si celui-ci se présente d'une façon peu favorable à l'examen. Donc, généralement, si le technicien n'arrive pas à déterminer le sexe du bébé, une autre visite est prise pour pouvoir donner un autre coup d'essai.
Et Abdoulaye Sankara, lui, veut savoir si l'échographie définit tout de suite l'auteur de la grossesse à l'issue d'un doute.
Malheureusement, à cette question-là, l'échographie ne peut pas définir la paternité du fœtus parce que ce n'est pas un examen sanguin.
Alors, la question de Nervi Nerva rejoint un peu celle que Médard du Rocher-Beauté a posée tout à l'heure concernant pourquoi des fois les résultats de l'échographie ne s'avèrent pas, sont différents de la réalité à la naissance de l'enfant.
Bien, nous le savons, toute science a des limites. Donc, du fait que l'interprétation de l'échographie provient de l'observation déduite de la réaction des cellules corporelles par rapport au sang. Cela veut dire que plusieurs facteurs affectent le comportement du sang qui traverse le moment du bébé. Donc, de ce fait, certains diagnostics ne peuvent être confirmés qu'à la naissance du bébé après l'observation directe lorsque c'est possible.
Tchatch Konaté s'attendait à des jumelles après 3 échos. Il dit que c'est au dernier que son rêve tombe à l'eau. L'échographie révèle un enfant, une fille. Seulement, le sexe était vrai, mais il voudrait savoir pourquoi ses erreurs, lui qui s'attendait à des jumelles, et voilà qu'il se retrouve avec une seule fille.
Il y a plusieurs explications à ce phénomène. Si nous avions l'âge exact à laquelle les échographies ont été faites, la réponse aurait été plus axée sur son cas précis. Mais en général, les jumeaux peuvent être conçus au départ, mais l'un ne progresse pas. Cela s'appelle généralement le jumeau qui disparaît. Donc, quand cela arrive pendant les premières semaines, le premier trimestre, le jumeau qui n'a pas survécu est réabsorbé de sorte qu'il n'y a plus de traces. Donc, après confirmation d'une grossesse multiple en cours, il y a des chances que cette grossesse devienne une grossesse unique. Et si on n'est pas suivi par une échographie après la première ou la deuxième qui se fait généralement au premier trimestre.
Et Alphonse Boaki demande si le bébé prématuré est découvert à l'échographie. Et lui, c'est depuis la RDC qu'il nous écrit.
Le bébé prématuré est celui qui est né avant l'âge terme qui est 37 semaines de grossesse, soit 8 mois et demi. Donc, de façon technique, l'échographie ne détermine pas la prématurité du bébé, mais plutôt l'âge en semaine de naissance.
Damas Moussaou Ndombe a laissé trois séries de questions sur notre page Facebook de VOA Afrique. Dans la première question, il dit « Madame, l'échographie en tant qu'examen est obligatoire chez nous ici, dans les grandes villes et aussi dans les grands centres, dotés des experts. Mais l'on constate que lors de la naissance, les nouveaux-nés sont parfois infirmes, soit il y a des problèmes graves qui mettent en danger la vie des enfants ou de leur mère. À quoi cela est-il dû ?»
Ça, c'est une très bonne question. L'échographie est un outil de diagnostic. Donc, un échographe est un technicien. Et la technologie et la technique déterminent le degré de compétence et le pourcentage de résultats positifs. Donc, cela veut dire entre les capacités de la personne qui fait l'examen et la performance de la machine, ces deux facteurs déterminent le résultat. Il y a aussi l'équipe médicale. Parce que l'échographe, dans sa profession, n'est pas censé y travailler tout seul. Il doit avoir le soutien du radiologue ou de l'obstétricien spécialisé en grossesse difficile, qui, l'un des deux, doit être la deuxième paire. Donc, pour affirmer ou questionner ou mettre un peu plus d'informations sur ce que l'échographe a déterminé. Cela étant dit, il arrive que des décès soient manqués, surtout si la grossesse ne bénéficie que d'un seul examen. Ou encore, certains décès ne se signalent que plus tard, pendant le troisième trimestre. Il y a des décès, par exemple, cardio, qui ne peuvent vraiment se déterminer que lorsque le bébé a atteint 30 semaines, 32 semaines. Mais généralement, la plupart des fœtus sont examinés entre 18 et 24 semaines.
La deuxième question de Moussa Ndombe, c'est celle, je pense que c'est la question que, l'une des questions que la plupart de nos auditeurs ont posées. Alors, voilà, il s'inquiète du fait que le mensonge de l'échographie laisse en désespoir les femmes. Dans le cas où, quand la femme se rend à son échographie, on lui dit que c'est un garçon, alors qu'à la naissance, elle met au monde peut-être des jumelles. Alors, il veut savoir si, à ce moment-là, il faut blâmer les échographes ou ce sont les appareils qu'on utilise qui sont douteux?
Bon, un peu des deux. Avec l'avancée de la technologie, ce genre de cas sont de moins en moins courants. Et il faut aussi mentionner que les échographes ont des limites et c'est à chacun d'être honnête et d'admettre lorsque, à la suite des forces soutenues, l'examen ne peut pas être conclu de façon satisfaisante. Donc, si un échographe a un code d'éthique de travail honnête, il pourra reconnaître « j'ai pas pu déterminer le sexe du bébé » au lieu de désigner ici est l'ennemi de l'échographe. On doit se baser sur les faits et sur ce qu'on voit. Donc, il est important que l'échographe soit honnête et aussi ça dépend des appareils que nous utilisons.
Selon Moussa Ndombe, nos grands-parents ne savaient pas tout ceci, ne connaissaient pas l'échographie et les risques de décès, certainement à la naissance, étaient moins importants. Alors que maintenant, il y a beaucoup de cas de décès pendant l'accouchement, tant pour le bébé que pour la maman. À quoi cela est-il dû?
Bon, je dirais que ce résumé ne reflète pas vraiment l'histoire réelle, malheureusement. Je n'ai pas les chiffres exacts pour le montrer clairement, mais l'amélioration des soins prénataux, donc l'échographie, en fait partie, contribue à ce qu'il y ait moins de mortalité périnatale, tant pour la maman que le bébé. Les histoires que maintenant nous entendons beaucoup parler de ces cas, et peut-être dans le passé, nous n'en entendions pas parler beaucoup, mais l'une des luttes qui est mise en avant dans le domaine de l'obstétrique, c'est de diminuer la mortalité autour de la grossesse, que ce soit pour la maman, pour le bébé, et aussi de lutter pour que les bébés soient, avant la naissance, soient pris en compte encore plus pour éviter justement ce genre de catastrophe qui arrivait très souvent dans le passé.
D'après Alphonse Mbouaki, aujourd'hui on assiste fréquemment à des hémorragies pendant les accouchements, alors que dans les villages, dans le passé, les mamans accouchaient sans avoir, sans hémorragie, elles ne connaissaient pas ces problèmes d'hémorragie, ce qui diminuait les décès de la maman ou du bébé à la naissance? Comment expliquer cela?
Bon, encore, c'est à peu près la question précédente. La périnatalité a été la raison de chasse aux sorcières pour nos mamans. Et aujourd'hui encore, celles qui n'ont pas de soins, qui n'ont pas accès à la médecine moderne, en paient le prix. En prenant l'exemple cité, l'hémorragie postpartum, c'est-à-dire l'hémorragie après l'accouchement, l'une des raisons peut être simplement que le placenta recouvre le col. Et le col, c'est la partie de l'utérus qui s'ouvre pour que le bébé puisse sortir de l'utérus. Alors, si le placenta recouvre le col, que ce soit un bout ou toute une partie du placenta, sachant que le placenta, ce sont des vaisseaux sanguins, cela cause une hémorragie. C'est un diagnostic qui est très simple et qui se fait très facilement. Lorsque la maman a reçu une échographie pendant le deuxième semestre, entre 18 et 24 semaines, et si, lorsque cela a été découvert en ce moment-là, la maman a un suivi qui permet qu'à 32 semaines, cela soit encore évalué pour voir si ça a été résolu ou pas. Si ce n'est pas résolu à l'approche de la 36e semaine, la maman aura encore une échographie. Et s'il est montré que le placenta n'a pas bougé, la maman devra être accouchée par voie césarienne, et cela avant qu'elle ne finisse la 37e semaine, pour diminuer justement le risque d'hémorragie pendant l'accouchement.
Alors, dans la dernière série de nos questions, nos auditeurs veulent savoir ce qu'on peut voir à l'échographie à 3 semaines de grossesse.
3 semaines de grossesse, généralement, il n'y a rien à l'échographie. Le plus tôt qu'on peut voir quelque chose, le sac embryonnaire dans l'utérus, c'est à partir de 5 semaines de grossesse. Et c'est là où on voit le sac embryonnaire et le sac de Vitellin.
Et à partir de quand peut-on voir l'embryon dans la cavité utérine?
Dans la cavité utérine, entre 6 et 7 semaines, c'est généralement au début de la 6e semaine, l'embryon est visible dans la cavité utérine.
Et à partir de quel stade peut-on entendre le cœur de l'embryon?
Le cœur de l'embryon s'entend entre 6 et 7 semaines. Cela commence doucement entre 70 et 80. Et par la fin de la 7e semaine, peut arriver jusqu'à 180.
Et à quel moment peut-on reconnaître le sexe de l'enfant à naître?
Généralement, cela dépend de la maman, du corps, la façon dont le son traverse la maman. Cela peut être vu à 13 semaines, mais généralement, pour être sûr, c'est conseillé de déterminer le sexe de l'enfant entre 18 et 24 semaines pendant l'anatomie complète du bébé.
Merci beaucoup. Pour terminer notre émission, Madame Sabrina Ngwe, quel conseil pouvez-vous donner aux femmes qui négligent l'échographie et même... D'abord, est-ce que l'échographie, c'est juste une affaire de la mère ou le père peut aussi faire quelque chose?
Bien sûr, l'échographie, c'est une expérience familiale. C'est vrai, c'est un examen médical. On ne doit pas se prendre cela vraiment à la légère parce que certains pensent que c'est juste comme une balade. C'est un examen médical, mais c'est un examen médical qui peut se faire en famille. Ça aide aussi le papa à voir ce qui se passe, à être inclus dans la progression de la grossesse. Donc, les papas devraient se sentir à l'aise et la maman devrait se sentir à l'aise d'être assistée par le papa pendant qu'elle se fait faire une échographie.
Merci. Et donc, quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui continuent de négliger les échographies ou bien qui ne s'intéressent même pas à faire l'échographie pendant qu'elles sont enceintes?
Je dirais que peut-être c'est par ignorance des bienfaits que l'échographie pourrait apporter. Dans ma profession, cela fait un peu plus de 10 ans que je me suis concentrée à l'échographie prénatale et je vous assure, ce qu'on voit peut être époustouflant. Donc, cela apporte un élément de diagnostic soit rassurant ou de prévoyance pour les parents. Donc, prenez cela au sérieux. C'est tout comme un check-up qu'on vous demanderait de faire sur vous-même. Donc, un homme averti en vaut mieux.
Merci beaucoup, madame. Nous vous remercions d'avoir été l'invitée de cette émission. Votre santé, votre avenir sur VO Afrique.
Le plaisir est le mien. Merci.
Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VO Afrique.
Vous venez de suivre l'entretien que nous a accordé madame Sabrina Ngwe sur l'échographie. À présent, c'est le moment de suivre Carnet de santé avec Lina Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur le handicap. Au Malawi, Talandira Kogoya, qui a 9 ans, défie son handicap et devient une inspiration dans sa communauté. Et que pensez-vous des conditions de vie des handicapés dans votre communauté? Nous avons recueilli votre avis. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le handicap, plus d'un milliard de personnes dans le monde en souffrent, d'après un rapport de l'OMS et la Banque mondiale. Le handicap désigne l'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Les Nations Unies estiment que le nombre total de personnes handicapées en Afrique est d'environ 80 millions. Les handicapés vivent souvent dans des conditions difficiles, sont généralement en plus mauvaise santé, atteignent des niveaux d'éducation plus bas et présentent des taux plus élevés de pauvreté que les personnes non handicapées. Cette situation est souvent due au manque de services à leur disposition et aux nombreux obstacles qu'elles rencontrent dans leur vie de tous les jours. Partons à présent au Malawi, où un garçon handicapé de 9 ans a montré à sa communauté que naître avec des difficultés physiques n'est pas un frein. Talandira Kogoya, c'est de lui qu'il s'agit, est né avec une seule jambe, mais a appris à écrire, jouer au football et faire du vélo. Un documentaire sur sa vie émouvante a été nominé pour le Festival australien du court-métrage Focus on Ability 2020, qui aura lieu en octobre. Reportage de Lamek Massina, récit de Mohamedou Mfa.
Élever Talandira, 9 ans, qui est né avec une seule jambe, n'a pas été facile pour la famille Kogoya.
Certaines femmes se moquaient de moi quand elles nous ont vu faire du vélo pour aller à l'école. Elles disaient qu'elles ne prendraient pas la peine d'amener un tel enfant à l'école tous les jours. Je les ignorais tout simplement et me disais que c'est un enfant donné par Dieu.
Le regard de la communauté sur Talandira a depuis changé. Le garçon fait montre d'une extraordinaire combativité face à son handicap. Ses compétences d'autodidacte ont été présentées dans un documentaire local intitulé Chosen, qui a été nominé pour le festival de court-métrage Focus on Ability, prévu en Australie. Les autorités malawiques pensent que l'histoire de Talandira est un excellent exemple pour les autres personnes handicapées et la manière dont elles doivent être soutenues.
We are very proud of Talandira.
Nous sommes très fiers de Talandira et du commentaire qui parle de lui. Cela aiderait d'autres parents à sortir et à exposer leurs enfants handicapés à diverses activités sociales, à les pousser à réaliser leurs rêves.
What they are expecting in the future.
La mère de Talandira est convaincue que le documentaire sur son fils va crever les écrans au festival en Australie.
Son dévouement et sa sagesse me font croire que le documentaire remportera un prix.
Quant à Talandira lui-même, élève de troisième année, il voit plus loin que le dit festival. Son rêve, c'est d'être pilote.
Je veux être pilote parce qu'il transporte des gens vers diverses destinations à travers le monde. Je veux aussi voir ces endroits.
En attendant, Talandira est fier de conduire sa bicyclette et de montrer qu'il est le pilote de son destin.
Bahati Samueli est chauffeur de mototaxi à Dar es Salaam. Selon lui, les personnes handicapées sont confrontées à de nombreux défis en Tanzanie, notamment le manque d'accès aux soins de santé et la discrimination sur le marché du travail. Voici son témoignage.
Tunapoenda kwenye huduma za afya, changamoto tunazokutana nazo Lorsque nous visitons les centres de santé, nous n'avons pas la priorité. Les personnes handicapées ne devraient pas faire la queue pendant longtemps. Nous n'avons pas du tout la priorité dans les hôpitaux. C'est l'un des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous demandons au gouvernement de nous aider dans ce dossier. Nous demandons de la protection parce que parfois, lorsque vous allez au marché de Kariakou, par exemple, les policiers viennent vous insulter simplement parce que vous êtes handicapé. Nous n'avons pas choisi cela. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Nous leur demandons de ne pas nous insulter. Ils peuvent simplement nous parler. Nous sommes des êtres humains et nous pouvons comprendre si vous nous parlez.
Que pensez-vous des conditions de vie des personnes handicapées dans votre société? Voici certaines de vos réactions sur Facebook. Victoire Kim m'a écrit: plusieurs personnes handicapées m'ont dit dans les rues, résident dans la rue. La situation est pire dans les régions rurales. Elles y sont souvent victimes de discrimination, ce que la Constitution interdit, mais ces lois ne sont pas respectées. Christian Tiangala réagit. Il est vrai que les personnes handicapées ne sont pas souvent considérées, surtout dans les projets de grande envergure, mais nous les aimons. La mutation génétique qui cause la trisomie 21 ou syndrome de Down augmente le risque de déficience intellectuelle et de décès prématuré, mais il protège également contre certains cancers et conduit souvent à des personnes appréciées pour leur gentillesse et leur joie. Certains chercheurs pensent être sur la piste des solutions qui soulageraient les patients de cette maladie génétique. Reportage de Shelley Slender, le récit est de Mohamed Oumfa.
Katie Wolf, chercheur à l'Institut Linda au Colorado, ne tarit pas d'éloge à l'endroit de son beau-frère atteint du syndrome de Down.
He always wants to marry my sisters.
Il veut toujours épouser mes sœurs.
He really likes
il aime vraiment colorer, il aime chanter, il apporte beaucoup de joie.
He brings a lot of joy.
Les personnes atteintes du syndrome de Down ont un plus faible risque d'être victimes de certains cancers. Selon les chercheurs de l'Institut, c'est parce qu'elles ont un système immunitaire hyperactif.
Leurs cellules immunitaires sont comme des cellules de surhomme à certains égards. Ce sont des cellules en ébullition, prêtes à combattre.
Mais cette hyperactivité peut provoquer des déséquilibres, entraînant des troubles tels que l'alopécie, une forme de perte des cheveux. Et un système immunitaire stressé peut s'épuiser, ce qui est risqué pendant les saisons de grippe ou en cette pandémie de COVID-19.
Les personnes atteintes du syndrome de Down sont vraiment prédisposées à la pneumonie grave. C'est en fait la période la plus effrayante de l'année.
Le directeur de l'Institut a de nombreux amis qui souffrent du syndrome de Down. Parmi eux, l'actrice Megan, qui joue dans la série primée aux Emmy Awards, Born This Way, une série sur la trisomie 21. Il a conseillé à Megan d'éviter les aliments contenant du gluten, comme le blé, ce qui n'est pas toujours facile.
Mon professeur m'a dit que j'avais un problème de comportement. En fait, je consommais leur nourriture à l'école. C'était des aliments qui contenaient du gluten. C'est pourquoi ma mère est venue et a dit à mes professeurs que je n'ai pas de problème de comportement. C'est la nourriture de l'école qui me rend malade.
Les chercheurs de l'Institut Linda étudient comment le mode de vie et les médicaments pourraient rééquilibrer le système immunitaire. Leur découverte pourrait aider les personnes souffrant de diverses maladies allant du cancer à la pneumonie en passant par la démence.
Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le nouveau coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et vos réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @lenormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment et on utilise un masque en public. Portez-vous bien et à très bientôt.
Voici la fin de ce magazine hebdomadaire, Votre santé, votre avenir. La première partie de ce programme hebdomadaire était structurée autour de l'échographie. Nous avons eu un entretien avec Mme Sabrina Ngwe, échographe à l'hôpital Innova en Virginie, ici aux États-Unis. Dans la deuxième partie, vous avez suivi Carnet de santé, présenté par les membres du groupe. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nani Tetalani. Continuez d'écouter Vidéo Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.